Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron et Donald Trump à l'ONU pour deux discours radicalement opposés. Le président français privilégie la diplomatie pour résoudre les crises mondiales, alors que son homologue américain menace de détruire la Corée du Nord si elle attaquait les États-Unis. Dans ce journal, le compte-rendu à New York d'Isabelle Labéry et de Grégory Phillips. Aung San Suu Kyi déçoit la communauté internationale en refusant de condamner les exactions de l'armée birmane contre la minorité Rohingya. Nous en parlerons avec notre invité Philippe Bolopion de l'ONG Human Rights Watch. En France, plusieurs dizaines d'activistes de l'ultra-gauche ont réussi à perturber le procès de 9 individus jugés pour avoir incendié une voiture de police occupée en 2016. L'audience reprendra demain. Antoine Marette était au Palais de Justice de Paris. Emmanuel Macron et Donald Trump s'étaient quittés très bons amis hier soir à New York après un entretien particulièrement chaleureux, au moins devant les caméras. Le ton était bien différent aujourd'hui au siège de l'ONU. Dans leurs discours respectifs devant l'Assemblée générale des Nations unies, les deux hommes ont surtout étalé leurs divergences. Le président français défend l'accord de Paris sur le climat. Il refuse la rhétorique guerrière de Donald Trump face à la Corée du Nord et l'Iran. On retrouve à New York Isabelle Labéry.
Sur tous les dossiers, il prend le contre-pied de son homologue américain. En matière de climat d'abord, l'accord de Paris qui doit permettre de limiter le réchauffement climatique est irréversible, dit-il. Il se fera avec ou sans Washington.
Cet accord ne sera pas renégocié. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports. Mais nous ne reculerons pas. Je respecte profondément la décision des États-Unis. Et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons. Nous avons pour nous la force des pionniers, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur.
À la tribune, le chef de l'État vante les vertus de la diplomatie collective pour mieux dénoncer les initiatives individuelles. Et quand Donald Trump envisage de détruire complètement la Corée du Nord, il propose une autre solution, la seule, la négociation.
La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue.
Et c'est dans le même esprit que le chef de l'État défend l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran il y a 2 ans. En sortir, dit-il, serait irresponsable. Quand Donald Trump rappelle enfin que l'Amérique reste au centre de ses priorités, Emmanuel Macron appelle à se souvenir des valeurs fondatrices de l'ONU, l'entraide et l'humanité.
Isabelle Labéry, un discours donc très diplomatique d'Emmanuel Macron, là où un peu plus tôt, Donald Trump avait multiplié les menaces fort de la puissance militaire américaine, avec une cible privilégiée, la Corée du Nord et son dictateur communiste Kim Jong-un. On fait le point avec Grégory Phillips.
40 minutes de discours et sur le dossier le plus chaud aux yeux des Américains, la Corée du Nord, Donald Trump a tapé fort. Ce régime dépravé menace la sécurité de tous, dit le président des États-Unis.
No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals.
Aucune nation n'a intérêt à voir cette bande de criminels obtenir l'arme nucléaire. Les États-Unis sont forts et patients, mais si nous sommes obligés de nous défendre, nous ou nos alliés,
we will have no choice. But to totally destroy.
Nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Rocketman, l'homme fusée, est suicidaire pour lui et son régime.
The United States is ready.
Les États-Unis sont prêts, disposés et en mesure d'intervenir, mais j'espère que ça n'arrivera pas. C'est de ça dont il s'agit à l'ONU. C'est à ça que servent les Nations Unies.
That's what the United Nations is for.
L'Iran est également visé dans le discours de Trump. Cette dictature corrompue, ce régime meurtrier qui finance le terrorisme, dit le président américain. L'accord avec Téhéran sur le nucléaire est le plus mauvais jamais passé, conclut Trump, mais qui ne précise pas si les États-Unis vont s'en retirer ou non.
Grégory Phillips, correspondant de Radio France aux États-Unis. L'Iran, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dénonce un discours de haine. À l'inverse, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue, je cite, le discours le plus courageux jamais entendu en plus de 30 ans d'expérience avec l'ONU, Benjamin Netanyahou, qui souhaite une remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien. Focalisé sur la Corée du Nord et l'Iran, Donald Trump a quelque peu négligé la crise des Rohingyas en Birmanie dans son discours. Emmanuel Macron en a parlé, lui, pour dénoncer le nettoyage ethnique dont serait victime cette minorité musulmane. Depuis la fin août, plus de 420 000 Rohingyas ont fui au Bangladesh. L'offensive de l'armée birmane. Offensive en représailles à une série d'attaques menées par des rebelles rohingyas. Ce matin, Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale du gouvernement birman, est enfin sortie de son silence. S'exprimant en anglais, la prix Nobel de la paix a tenté de rassurer la communauté internationale tout en ménageant l'armée birmane. La correspondance à Rangoon de Rémi Favre.
Aung San Suu Kyi n'a pas pris beaucoup d'engagement. Elle a dit qu'elle appliquerait les recommandations de la commission présidée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, commission qui préconisait fin août d'octroyer plus de droits aux Rohingyas, notamment la liberté de mouvement. Pour le moment, ils n'ont pas le droit de sortir des camps de déplacés dans lesquels ils vivent en Birmanie. Ils ne peuvent pas accéder au marché du travail. Mais Aung San Suu Kyi n'a donné aucun calendrier pour la mise en place de ces réformes. Elle n'a pas mentionné d'autres pistes pour résoudre la crise, mis à part à plus long terme, le développement économique de l'Arakane, une région très pauvre. Enfin, elle n'a pas évoqué l'accès des organisations humanitaires internationales à l'état de l'Arakane, pas un mot. Or, les opérations des ONG étrangères et des Nations Unies sont complètement à l'arrêt pour le moment dans cette région de l'ouest du pays, à cause des violences, mais aussi parce que le gouvernement birman ne délivre plus d'autorisation de voyage aux personnels humanitaires étrangers.
Rémi Favre, envoyé spécial en Birmanie, invité de ce journal, Philippe Bolopion, directeur adjoint du plaidoyer au sein de l'ONG Human Rights Watch. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je précise que vous êtes en direct de New York où vous suivez bien sûr de près l'Assemblée Générale de l'ONU. Philippe Bolopion, il n'a pas beaucoup été question des Rohingyas aujourd'hui aux Nations Unies. Comment vous expliquez ce relatif des intérêts de la communauté internationale ?
Écoutez, c'est vraiment difficile de l'expliquer. C'est un peu l'éléphant qui est dans la pièce, comme on dit en anglais. C'est un des pires cas de nettoyage ethnique de l'histoire récente. À peu près 400 000 Rohingyas, ce qui est à peu près la moitié de la population Rohingya de la Birmanie, qui a dû fuir en l'espace de même pas un mois. Et malheureusement, on a le sentiment que la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU en particulier sont complètement paralysés sur ce dossier et n'agissent pas. L'ONU se souvient encore du Rwanda, de la Bosnie. À l'époque, on disait plus jamais ça, qu'on ne laisserait plus jamais ce genre de crime être perpétré en toute impunité. Et malheureusement, c'est exactement ce qui est en train de se produire sous nos yeux.
Alors, Emmanuel Macron, lui, emploie le terme de nettoyage ethnique pour décrire la situation des Rohingyas, mais ce ne sont pas des mots utilisés par les Américains, les Russes ou les Chinois. Alors pourquoi ?
Écoutez, peut-être parce qu'il préfère se voiler la face. La réalité, c'est que les autorités birmanes sont engagées dans une campagne de nettoyage ethnique. Nous n'utilisons jamais ces mots-là à la légère, à Human Rights Watch, mais il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette campagne qui semble destinée de manière froide et systématique à se débarrasser d'une partie entière de la population, à la faire fuir, et je dirais même à prendre des mesures telles que de placer des mines antipersonnelles à la frontière, pour empêcher ces réfugiés de revenir. C'est donc un crime extrêmement grave. Une fois que les mots sont employés, je dirais qu'il y a aussi une responsabilité d'agir, parce qu'on en est à un stade où les condamnations de la communauté internationale ne suffisent plus. Il faut maintenant passer à l'action. Alors ça veut dire quoi, passer à l'action dans ce contexte ? Eh bien, de notre point de vue, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale, les pays devraient commencer à imposer des sanctions contre les militaires birmans, des sanctions ciblées, des interdictions de voyager ou des gels des avoirs pour les généraux birmans qui sont responsables de cette campagne de nettoyage ethnique, un embargo sur les armes pour ne pas faciliter leur campagne de nettoyage ethnique, placer sous sanction les entreprises birmanes qui sont contrôlées par l'armée. Nous pensons que c'est ce genre de choses que les généraux birmans sont sans doute capables d'entendre, parce que les condamnations internationales les laissent complètement indifférents.
Est-ce que Aung San Suu Kyi a, elle, les moyens de résoudre cette crise de l'intérieur de la Birmanie ?
Je dirais que Aung San Suu Kyi a raté son rendez-vous avec l'histoire, son discours aujourd'hui qui était très attendu, notamment dans les organisations de défense des droits de l'homme comme la nôtre, où Aung San Suu Kyi est un grand nom, quelqu'un que les gens respectent et défendent depuis des années, mais elle est malheureusement complètement aux abonnés absents sur cette crise. Non seulement elle a été silencieuse pendant longtemps, mais elle a en plus fait des déclarations tendant à minimiser la gravité des attaques contre les Rohingyas. Donc je pense que malheureusement, même si on espère au fond de nous qu'elle finisse par voir la lumière et enfin condamner ses exactions comme elle le mérite, nous pensons nous qu'il faut tourner la page de Aung San Suu Kyi. Elle ne sera pas la solution à ce problème. Elle n'est pas non plus le problème principal. Ce sont réellement les généraux birmans qui contrôlent l'armée et de grandes parties de l'État qui sont responsables. Elle n'a aucun contrôle sur l'armée. Elle ne peut que utiliser la force morale de sa voix. Et même cela, semble-t-il, était trop pour elle.
Un dernier mot sur ces rebelles Rohingyas qui mènent des opérations militaires contre l'armée birmane. Que faut-il faire avec cette rébellion? Il faut la désarmer pour ramener la paix dans l'État?
Écoutez, ce n'est pas à nous de le dire. Ce qui est certain, c'est que cette rébellion est née sur un terreau extrêmement fertile. Ça fait des années et des années maintenant que la minorité Rohingya musulmane en Birmanie est oppressée. J'étais moi-même il y a quelques mois dans l'état de l'Arakan où j'ai visité des camps de réfugiés où les gens sont depuis maintenant des années prisonniers dans ces camps sans pouvoir travailler, sans pouvoir avoir accès à l'éducation, sans pouvoir avoir accès aux soins les plus élémentaires. Ils n'ont plus aucune dignité, plus aucun espoir. Et donc il n'était pas surprenant que tout cela finisse mal. Ceci dit, nous, ce que nous disons à cette rébellion armée, c'est qu'elle aussi doit respecter les droits, le droit international et les droits humains. Elle ne doit pas commettre d'exactions dans sa campagne contre les forces armées birmanes.
Philippe Bolopion de Human Rights Watch, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Tout le monde déteste la justice. Ce slogan anarcho-gauchiste, variante du célèbre Tout le monde déteste la police, a résonné cet après-midi dans l'enceinte même du palais de justice de Paris. Plusieurs dizaines d'individus ont réussi à perturber le procès de leurs amis. 9 militants d'extrême gauche jugés en correctionnel pour avoir incendié une voiture de police le 18 mai 2016, quai de Valmy à Paris. Les deux fonctionnaires qui se trouvaient à l'intérieur avaient eu juste le temps d'échapper aux flammes. Le procès a finalement été suspendu. Il reprend demain. La violence des partisans des prévenus ne garantissait pas la sérénité des débats. Le reportage d'Antoine Marette au Palais de Justice de Paris.
Toutes les conditions semblaient réunies pour réchauffer les esprits. Une salle d'audience d'une cinquantaine de places seulement et une centaine de sympathisants anarchistes ou d'extrême gauche venus soutenir les 8 prévenus, recalés donc devant la salle d'audience et qui commencent à montrer des signes d'impatience. Une grande salle réclame les militants avant de s'en prendre à des journalistes venus couvrir le procès et en particulier à ceux qui prennent des images.
Il y a des gens qui passent au tribunal à cause de tes vidéos de merde. Casse-toi, casse-toi. Même on te pète en morceaux. Je te pète ton truc.
Dégage.
Des journalistes menacés, parfois même brutalisés, la tension est telle que les protestations sont audibles de l'autre côté de la porte, côté salle d'audience. Les avocats dénoncent des conditions de travail qui remettent en cause la sérénité du procès. Le président du tribunal semble hésiter et après 2 suspensions de séance, il prend la décision de reprendre le procès le lendemain dans une salle plus grande cette fois. Maître Jérémy Assous est l'un des avocats de la défense.
C'est le procureur de la République. Les services du parquet qui avaient choisi cette salle alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle serait beaucoup trop petite. Ils ont subi ces conséquences, on a perdu une journée d'audience. Plus de 2/3 des journalistes n'ont pas pu rentrer dans la salle d'audience, que c'était fait de telle manière à ce que vous ne puissiez pas être témoin des conditions dans lesquelles ce procès a lieu. Et si vos confrères n'avaient pas menacé de quitter la salle, il y a de grandes chances qu'on serait encore dans cette salle.
C'est donc demain après-midi que le procès va réellement commencer après cette introduction chaotique en attendant un rassemblement contre... Je cite, la répression est prévue tout à l'heure à 19h devant le palais de justice, à l'appel notamment de la députée de la France insoumise, Danielle Obono.
Antoine Marette, merci. La fin d'une époque au Parti socialiste, on l'a appris ce soir. Le PS va vendre son siège de la rue de Solferino à Paris, un somptueux hôtel particulier acheté en 1980, un an avant l'arrivée à l'Élysée de François Mitterrand. Aujourd'hui, les caisses du PS sont vides après les déroutes électorales du printemps. L'ouragan Maria qui s'est abattu sur les Antilles a relativement épargné les îles françaises. On déplore tout de même un mort et deux disparus en Guadeloupe, mais il n'y a pas de victimes signalées à la Martinique. Et puis au Mexique, on l'a appris tout à l'heure, un puissant séisme a frappé ce soir la capitale Mexico et sa région, un séisme de magnitude 7,1. Les autorités mexicaines font pour l'instant état d'un premier bilan d'au moins 7 morts. Nous y reviendrons bien sûr demain dans nos éditions sur France Culture. Le temps demain, amélioration sensible après la dissipation des brumes et brouillards matinaux. Sur la moitié nord, il faudra attendre l'après-midi pour voir le soleil s'imposer. Au sud, il fera beau dès le matin. Température maximale en hausse de 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 20 à 25 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.